Radio Okapi.
Les experts militaires américains sont en RDC pour renforcer la capacité des FARDC dans la lutte contre le terrorisme dans l'est du pays. Précision du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, tenait une conférence de presse hier à Kinshasa, conjointement avec son collègue des droits humains. Plus de 100 petites et moyennes entreprises congolaises de Kinshasa reçoivent l'aide du gouvernement pour accompagner leurs activités. Elles obtiennent entre 50 000 et 100 000 dollars selon la taille de l'entreprise. C'est après des concours organisés par la Banque mondiale. Et puis, le pasteur Eric Senga est notre invité ce matin. Le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, ECC, s'exprime sur les tractations autour de la désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Madame, Messieurs, bonjour. Sachez tout d'abord que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et président en exercice de l'Union africaine, est arrivé hier dans la soirée à Lilongwe, capitale du Malawi. C'est pour participer aux travaux du 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement des États de l'Afrique australe, SADC. Aujourd'hui, 17 août, s'ouvre au Centre international des conférences Bingu à Mutarika les travaux du 41e sommet de la SADC sous le thème « Renforcement des capacités en matière de production face à la pandémie de COVID-19 en vue de mener des réformes économiques et industrielles à caractère inclusif et durable. 16 chefs d'État et de gouvernement y sont attendus pour ces assises. Je vous le disais en titre, arrivée des experts militaires américains en RDC. Le porte-parole du gouvernement donne des éclaircissements à ce sujet. Selon Patrick Muyaya, cette présence rentre dans le cadre du partenariat qui existe entre les deux pays. Toujours d'après lui, les experts militaires américains sont venus renforcer la capacité des forces armées de la RDC dans la lutte contre le terrorisme dans l'est du pays. Le ministre de la Communication s'est ainsi exprimé au cours d'une conférence de presse qu'il a animée hier conjointement avec son collègue des droits humains, le ministre Patrick Muyaya, dans ses propos recueillis par Paul Matendo Mayamba.
Il y a des efforts qui sont faits dans le cadre du renforcement de l'armée, mais c'est dans le cadre de ces efforts, parce que nous faisons face au terrorisme qui est une menace mondiale. Il y a une coalition mondiale qui existe contre Daesh, qui a tenu des réunions, et d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundo, l'a pris part là-bas. Si on laisse ces cancers des terroristes se métastaser, mais toute la région sera perturbée, puisque nous sommes en partenariat avec le gouvernement américain. Les experts qui sont spécialisés sur les questions des terrorismes sont arrivés. C'est notre armée qui fera la bataille, ils viendront regarder les plans, quel type d'appui, quel type de besoins. Donc ici, il faut considérer que c'est une coopération qui a pris forme et d'ailleurs, nous devons nous réjouir de voir les Américains être les premiers à se mobiliser à ce niveau-là. En dehors des amis kényans qui viennent dans le cadre de la FIB avec la MONUSCO, mais nous souhaitons que d'autres pays, d'ailleurs, s'ils sont disponibles, les termes nous pourront en convenir, pour que nous puissions avoir une armée forte et puissante capable de défaire ces terrorismes.
Politique. Le délai accordé aux confessions religieuses par le président de l'Assemblée nationale pour désigner le président de la CENI expire ce mardi 17 août. Cependant, ce délai pose problème selon le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, puisque la correspondance leur adressée à cet effet leur est parvenue le week-end. Selon lui, les confessions religieuses vont solliciter une autre prorogation pour finaliser cette question. Entre-temps, le porte-parole de l'ECC affirme que les négociations se poursuivent. Il ajoute que l'ECC et la CENCO n'ont nullement l'intention de bloquer le processus électoral tel que le soutiennent certaines personnes. Le pasteur Eric Senga le dit au micro d'Alain Rungmushinge.
Il faudrait ici rappeler que la question est cruciale. Elle est éminemment politique. Elle n'est pas simplement de l'ordre juridique. Elle touche à plusieurs aspects, ce qui nous a conduit à avoir plusieurs discussions, plusieurs niveaux de négociations. Les négociations continuent. On ne dort pas. Nous travaillons d'arrache-pied pour trouver vite les solutions. Ce qui fait que les délais matériels nous accordés des 72 heures pose un petit problème parce que la correspondance nous est parvenue le week-end. Vous savez que nous sommes de la semaine anglaise et donc le week-end nous sommes vraiment préoccupés et pris par des charges pastorales. C'est ce matin que nous avons été officiellement saisis de la correspondance de l'honorable président. Et donc le président de la plateforme est déjà en train de répondre pour solliciter une prolongation du délai matériel pour essayer de mettre à contribution toutes les discussions que nous avons ça et là. Je pense pense que c'est tout le pays qui est préoccupé, c'est toute la nation qui est impliquée et les autorités nous accompagnent dans ces réflexions parce que toute la classe politique, la classe sociale veut qu'on trouve la solution et nous comprenons à juste valeur les préoccupations des uns et des autres. Donc, il est important de se faire encore une fois confiance et de notre côté, nous avons nettement la volonté de trouver très vite la solution à ces problèmes.
Par ailleurs, dans un communiqué rendu public hier et qui porte la signature de Martin Fayulu et Adolphe Muzito, la MOUCA s'exprimant sur la mise en place des organes de la CENI affirme que la solution pour sortir de l'impasse actuelle reste le consensus entre toutes les parties prenantes sur les réformes institutionnelles. Pour la MOUCA, la révision de la loi organique sur la CENI pour toutes les parties prenantes est une urgence pour mettre en place un organe de gestion des élections indépendant et impartial. La CENI étant une institution citoyenne qui doit servir l'intérêt général et ne peut être contrôlée par aucune des parties prenantes aux élections. À propos des tractations sur le choix des membres du bureau de la CENI, le porte-parole du gouvernement a indiqué lors de la conférence conjointe animée hier avec son homologue des droits humains que cela ne relève pas des compétences du gouvernement. Le gouvernement attend de mobiliser le moment venu des moyens pour organiser les élections dans le délai, a-t-il ajouté. Je vous le disais en titre, plus de 100 petites et moyennes entreprises congolaises de Kinshasa obtiennent un financement comme appui du gouvernement dans l'accompagnement de leurs activités. Après la mise à disposition de ces fonds, les responsables de ces PME ont été outillés hier au cours d'une matinée d'information sur les normes entrepreneuriales afin de bien coordonner ce financement. Des précisions dans ce reportage de Billy Van Lutumba.
La fourchette des fonds reçus varie entre 50 000 $ et 100 000 $ selon la taille de l'entreprise. Ils en bénéficient ainsi à travers le programme d'appui pour le développement des micro et des petites et moyennes entreprises, quelques-uns d'entre eux.
Nous sommes heureux d'être parmi les lauréats COPA. Nous avons eu quand même la grâce d'être sélectionnés. C'était un long parcours.
C'est vraiment des cas rares pour avoir la vision du chef de l'État. Ce que nous pouvons faire, c'est vraiment de lui montrer que nous sommes capables de lui donner ce qu'il veut par rapport à sa vision.
L'objectif, c'est de rentrer dans la compétition pour que dans les jours à venir, nous puissions créer effectivement des emplois comme le gouvernement congolais l'entend.
Le ministre de l'Entrepreneuriat, Eustache Mouanzi, à travers son représentant, encourage ces jeunes entrepreneurs à user d'une gestion rationnelle pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Pascal Tchelo.
Vous êtes donc pour le chef de l'État et pour le gouvernement de vrais cobayes. Et donc, on vous invite de pouvoir bien jouer ce rôle-là parce que à travers votre expérience, vous allez inciter les jeunes, les papas et mamans à pouvoir vous imiter.
Signalons que dans ce projet qui bénéficie d'un accompagnement de la Banque mondiale, les bénéficiaires ont au préalable soumis un plan d'affaires qui, après examen, devrait convaincre avant d'être retenu.
Sud Kivu, l'exploitation minière est plus illicite que régulière dans la province, constat de la ministre des Mines après avoir effectué une mission des 2 jours à Bukavu du 15 au 16 août. De ce fait, Antoinette Nsamba Kalambay a sensibilisé la population contre la fraude minière et l'invite à dénoncer tous les exploitants miniers illégaux. De son côté, elle promet de prendre toutes les mesures appropriées pour faire respecter la loi et assainir le secteur. Antoinette Nsamba, dans ses propos recueillis par Cynthia Bachizi.
L'exploitation est plus illicite ici que régulière. Et nous étions venus au fait pour ça. Nous avons ramené le code et le règlement minier pour que l'administration des mines ainsi que ses services spécialisés puissent être regardants par rapport au strict respect de la réglementation minière. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, nous les vivons non seulement dans le Sud Kivu, c'est sur toute l'étendue de la République, il y a des gens, des étrangers qui viennent. Ils s'entendent avec des coopératives minières pour contourner au fait l'exploitation industrielle. Donc quelque part, la population congolaise est responsable parce que pour créer une coopérative minière, on doit être exploitant artisanal. Nous voulons comprendre, il y a des coopératives minières qui ramènent aujourd'hui des étrangers avec des engins lourds. Et nous allons prendre des mesures, en tout cas draconiennes, pour mettre hors état de nuire toutes ces personnes qui sont en train d'exploiter illégalement en nous laissant des trous, des dégâts énormes environnementaux.
Après presque 2 mois de fermeture, les bars, terrasses et autres discothèques ont rouvert leurs portes sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. La levée de cette mesure annoncée le samedi dernier dans le compte-rendu du Conseil des ministres fait par le porte-parole du gouvernement réjouit plusieurs tenanciers de bars et terrasses. Notre équipe de reportage est allée se rendre compte sur terrain de l'ambiance qui règne depuis la reprise des activités dans ce secteur. Michel Outeté.
Nous sommes sur le boulevard Kimbuta, l'un des points chauds de Kinshasa situé dans la commune d'Ndjili. À première vue, les décors éplantés, chaises et tables sont bien rangés. Progressivement, les clients occupent le place. La boisson est servie et les pas des danses s'en suivent sur fond de la musique. Après la fermeture, ces moments sont ceux des retrouvailles des habitués des lieux. Pour les tenanciers de ces espaces, la joie est au rendez-vous. Témoignage.
Vraiment, ça faisait au moins 2 ou 3 mois depuis qu'on avait fermé les terrasses et bars. Nous avons actuellement repris le travail. En tout, on est satisfait.
Vraiment, satisfaction est allée.
Nous sommes contents comme les activités viennent de reprendre. Aussitôt ouvert, directement on commence à vendre. Déjà donc, vous voyez que le quinoa n'attendait que ça.
Un client trouvé sur place exprime aussi sa joie.
C'est une joie pour moi, client. Maintenant, nos frères tenanciers peuvent souffler parce qu'ils ont beaucoup souffert pendant ces temps.
Même ambiance constatée dans d'autres coins de la capitale, notamment à Bandal, Bon Marché et Place Victoire. Rappelons aussi que le couvre-feu a aussi été allégé compte tenu de l'évolution de la troisième vague de la Covid-19. Il est désormais appliqué entre 23h et 4h du matin.
Béni, alerte sur la montée en flèche des cas confirmés de Covid-19 ces derniers jours dans la zone de santé de Béni. Plus de 100 malades, dont 3 sous-respirateurs, sont enregistrés à l'hôpital général, notamment au centre de traitement Covid, alors que plusieurs décès sont signalés dans la communauté. Face à cette situation préoccupante, le coordonnateur de la prise en charge des cas Covid en zone de santé de Béni appelle à une prise de conscience collective concernant le respect des gestes barrières afin de couper la chaîne de contamination. Docteur Jérémy Mouindo, au micro de Guylaine Kassassia.
La situation, elle est assez inquiétante au regard de nombre de cas qui sont dépistés chaque jour qui passe, au regard aussi de nombre de cas de décès dans la communauté, que donc nous en appelons à toute la communauté tout entière de Béni de pouvoir faire des alertes précoces. Ça ne sert plus à rien de continuer à garder des malades, surtout les personnes, les adultes. Nous interpellons nos collègues prestataires de soins de ne plus prendre ce risque de séquestrer les malades, surtout ceux qui sont dans les structures privées, de pouvoir nous aider à faire des alertes précoces pour qu'ensemble nous ayons cette possibilité de bouter dehors cette menace à la communauté. Justement, nous tendons vers les vacances. Les parents qui me captent à cet instant doivent être conscients de cette menace parce que les enfants, quand ils seront appelés à rester à la maison pendant cette période de vacances, nous devons bien contrôler leurs mouvements et nous devons nous rassurer qu'ils soient en bonne santé.
Dans l'actualité aussi, l'inauguration hier dans la commune de Massina à Kinshasa de Padiat Massina Hôpital, un nouveau complexe hospitalier fruit d'initiatives privées. C'est le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention qui l'a inauguré. Cet hôpital de 3 niveaux et d'une capacité de 100 lits est bien équipé. Il a la particularité d'offrir des services de proximité à une population à faible revenu. Jean-Pierre Elali Coco, reportage.
Une nouvelle structure hospitalière vient de voir le jour dans les quartiers surpeuplés de la Tchangou. Il s'agit des Padiat Massina Hôpital avec une capacité de 100 lits et une panoplie de services. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani. Quelle est la particularité de cette nouvelle structure sanitaire? Le docteur Timothée Maoussa, médecin directeur de la Fondation Padiat.
Partout ailleurs dans la ville, la consultation pour voir un médecin, c'est 15 dollars jusqu'à 30, 40 dollars. Mais ici, pour voir un médecin spécialiste, c'est 3,5 $, 7 000 francs. Et aussi, pour voir un généraliste, c'est 5 000 francs. À tout moment, il y aura la permanence des spécialistes tous les jours. C'est une œuvre sociale que la Fondation vient de donner pour permettre à la population de Massina, de Kimbaseke, de Tchangou, d'avoir des soins à un prix abordable.
Il ne peut en être autrement lorsqu'on est en face d'une population démunie et à laquelle on ne peut pas exiger plus. C'est pourquoi, dans son monde de circonstances, le ministre Jean-Jacques Mbungani a mis un accent particulier sur la solidarité.
Cet hôpital qui contribue fortement à la ligne du gouvernement de donner aux Congolais un état solidaire.
Les responsables du nouvel hôpital ont demandé aux habitants de la Tchangou de protéger cette œuvre qui, selon eux, leur patrimoine.
Rendons-nous dans la province du Kwilu. Après pollution de la rivière Kasaï, la vie est devenue très difficile pour les populations riveraines des territoires d'Idiofa et de Bagata. Il s'observe une carence en poissons et autres nourritures, carence aussi en eau. Selon le député provincial Bonaventure Kipalamoto qui alerte, la population risque de souffrir de la malnutrition et la situation peut s'étendre sur toute la province. Tout en signalant aussi la mort des deux hippopotames, il lance un SOS au gouvernement central et aux organismes internationaux à caractère humanitaire afin de résoudre ce problème de pollution de l'eau de la rivière Kasaï. Le député provincial Bonaventure Kipalamoto est au micro de Irène Boma.
Pitié pour la population de la province du Kwilu en général et en particulier territoire du Diofa et Bakata. La rivière Kasaï est polluée, la population n'arrive même pas à faire la pêche et en faire contact avec l'eau s'est lavée. La situation devient compliquée et difficile. Des hippopotames ont crevé au niveau d'Mpango dans la réserve des hippopotames de Mangaï dans les territoires du Diofa. Si la situation continue comme ça, la population va souffrir de la malnutrition parce qu'au marché, on ne trouve absolument rien. Et la situation risque d'être généralisée au sud de la province du Kwilu. Nous lançons un appel au gouvernement de notre pays et aux organismes internationaux humanitaires de venir en secours de cette population. Mettre une chambre froide et surtout résoudre les problèmes de l'eau.
Actualité Afrique Monde.
Hakainde Hichilema, élu 7e président de la République de Zambie, crédité de plus de 2,8 millions de voix selon les résultats définitifs du premier tour. Les Zambiens ont porté leur voix sur cet homme d'affaires surnommé HH, en grande partie pour sa promesse de redresser l'économie. Désormais, le nouveau chef de l'État va devoir répondre aux attentes des électeurs.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo SCC. Il s'exprime sur les tractations autour de la désignation du futur président de la CENI après les 3 jours de plus accordés aux confessions religieuses à cet effet par le président de l'Assemblée nationale, délai qui expire aujourd'hui. Le pasteur Eric Senga est interrogé par Alain Rongmouchinj.
Pasteur Eric Senga, bonjour. La date limite des 3 jours de plus accordés aux confessions religieuses par le président de l'Assemblée nationale pour désigner le président de la CENI expire ce mardi 17 août. Où en est-on avec les tractations?
Oui, nous tenons avant tout à remercier le président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso, pour les délais accordés aux confessions religieuses. Il faudrait ici rappeler que la question est cruciale. Elle est éminemment politique. Elle n'est pas simplement de l'ordre juridique. Elle touche à plusieurs aspects, ce qui nous a conduit à avoir plusieurs discussions, plusieurs niveaux de négociations. Et donc, c'est pour vous répondre que les négociations continuent. On ne dort pas. Nous travaillons d'arrache-pied pour trouver vite les solutions. Ce qui fait que les délais matériels nous accordés des 72 heures posent un petit problème parce que la correspondance nous est parvenue le week-end. Vous savez que nous sommes de la semaine anglaise et donc, le week-end, nous sommes vraiment préoccupés et pris par des charges pastorales. C'est ce matin que nous avons été officiellement saisis de la correspondance de l'honorable président. Et donc, le président de la plateforme est déjà en train de répondre pour solliciter une prolongation de délai matériel pour essayer de mettre à contribution toutes les discussions que nous avons ça et là. Je pense que c'est tout le pays qui est préoccupé, c'est toute la nation qui est impliquée et les autorités nous accompagnent dans ces réflexions parce que toute la classe politique, la classe sociale veut qu'on trouve la solution et nous comprenons à juste valeur les préoccupations des uns et des autres. Donc, il est important de se faire encore une fois confiance et de notre côté, nous avons nettement la volonté de trouver très vite la solution à ces problèmes.
À vous entendre, il n'y a visiblement toujours pas de consensus entre les CC, la SENCO et les 6 autres confessions religieuses. Quelles sont les vraies raisons pour lesquelles vous refusez la candidature de Denis Kadima présentée par les autres confessions religieuses?
Les CC, la SENCO ne rejettent personne. Vous savez que, selon les rapports qui ont été établis, nous n'avions pas fini l'examen des candidatures. Nous étions juste au premier niveau, qui est le niveau de l'examen sur les personnalités, les candidats. Donc les aspects techniques et les aspects liés à leur personnalité. Revenons sur les débats autour des candidats. Au niveau des candidats, je rappelle qu'il y avait 4 noms sur la liste et nous n'étions que sur le premier nom. La divergence s'est manifestée autour des griefs qui ont porté sur un candidat. Pour l'ECC La Cinco, ces divergences étaient susceptibles d'entacher l'indépendance du candidat. La question n'est pas aller au sens de la moralité, au sens de l'éthique. Je pense qu'il ne faut pas ici prétendre que notre frère Kadima n'a pas d'éthique ou de moralité. Ce n'est pas ce que l'ECC et la CENCO ont dit. Les débats pour nous, c'est que les griefs ont porté à croire, en tout cas avec éléments d'appui, que les candidats a été beaucoup plus un agenda politique qu'une proposition des confessions religieuses. Donc c'est là où on doit faire la différence. Donc, et pour ce faire, nous avons montré par plusieurs fois et à nos collègues la nécessité qu'il y avait de mettre ces candidatures de côté. Ils peuvent accompagner les processus, ça c'est bien évident, à plusieurs rôles. Ils peuvent être des experts maison. Les confessions religieuses ont une responsabilité morale, spirituelle et historique d'assurer l'arbitrage du jeu électoral. À ce titre, il est important de veiller à ce que les candidats qui sera l'émanation des confessions religieuses arrivent à faire preuve de nos valeurs telles que disposées sur pied de l'article 8 de notre charte.
En maintenant votre position, est-ce que l'ECC et la CENCO ne seraient pas en train de causer un certain retard au processus électoral? Et que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes en train de préparer le lit à un éventuel glissement que d'aucuns redoutent et condamnent déjà?
L'ECC et la CENCO ne sont pas dans la logique de faire perdre le temps ou de piétiner le processus électoral. Si tel était réellement le cas, nous n'aurions pas fait des concessions, comme nous le disons. Je viens de vous dire que nous sommes en pleine discussion, nous négocions à plusieurs niveaux parce que c'est le souci qui nous tient à cœur. L'Église ne peut pas aller à l'encontre de ses propres valeurs. Comme je l'ai dit, le législateur nous a confié un grand rôle, une grande responsabilité de désigner celui qui devrait arbitrer le jeu électoral en toute sincérité. Le glissement ou pas glissement relève de la volonté politique des uns et des autres. Je pense qu'il ne faut pas qu'on trouve les boucs émissaires derrière nous et qu'on facilite les raccourcis au motif de faire les élections dans le délai. La question cruciale n'est pas l'organisation seulement des élections dans les délais, mais de quelle élection?
Pasteur Eric Senga, merci.
Le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, ECC, était interrogé par Alain Romouchinj. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net. Merci de votre attention.